L'hétérosexualité est dangereuse. Par Paul B. Preciado. Lu par Arnaud Romain. Chronique. Les statistiques les plus récentes révèlent que 7 femmes meurent chaque jour des mains de leur mari, de leur ex-mari, du père de leurs enfants, de leur partenaire ou de leur petit ami dans l'un des pays de la Communauté économique européenne. La majorité de ces meurtres ont lieu dans l'espace domestique ou à moins de 300 mètres de celui-ci, et ils arrivent, pour la plupart, après que les femmes ont signalé au moins une fois la violence de leur partenaire, sans que ces dénonciations ne donnent lieu à des mesures préventives ou de précaution, juridiques ou policières, qui pourraient empêcher la répétition et l'amplification de cette violence, jusqu'à la mort. Je me permets de signaler que cela arrive, au cas où on aurait pu l'ignorer, dans les pays occidentaux qui sont régis par des formes de gouvernement dites démocratiques. L'étude des statistiques sur les féminicides nous permet de tirer quelques conclusions, non pas seulement sur la relation entre la nécropolitique, le gouvernement à travers des techniques de violence et la différence de genre, mais aussi entre agression, terreur et la gestion de la sexualité. Tout d'abord, être un corps identifié comme femme sur la planète Terre en 2020 est une position politique à haut risque. Et je dis position politique et non position anatomique, car il n'y a rien, empiriquement parlant, qui permette d'établir une différence substantielle entre homme et femme. Je ne connais pas de femmes qui sont agressées parce qu'elles se promènent avec une carte chromosomique XX dessinée sur le front, ou d'actes de violence machiste qui nécessitent un examen de l'utérus comme condition préalable à la réalisation de l'attaque. Les femmes sont l'objet de violence parce qu'elles sont culturellement placées dans une position politique subalterne vis-à-vis de l'homme hétéropatriarcal. Les femmes trans, les hommes efféminés et les personnes dont la chorégraphie corporelle ou les codes vestimentaires ne correspondent pas à ce que l'on attend d'elles, en termes de genre dans un contexte social et politique donné, sont également victimes de violences. Comme le dit la féministe bolivarienne Maria Galindo, « Nous ne vivons pas dans des démocraties, mais dans des machocraties, où la violence s'exerce sur toutes les femmes et sur tous les corps, non-binaires et non-hétéronormatifs, cis ou trans, et ce dans des régimes politiques apparemment aussi différents que la Bolivie, la Turquie ou la France. » Dans ce contexte nécro-sexo-politique, les critiques des féministes TERF, Trans Exclusionary Radical Feminist, qui prennent des positions transphobes, également contre les femmes trans, sont empiriquement erronées et politiquement obscènes. Non seulement les femmes trans ne sont pas des agents de violence, mais au contraire, elles sont l'un des corps politiques les plus vulnérables face à la violence hétéropatriarcale. La révolution féministe sera la révolution de toutes et de tous, ou elle ne le sera pas. Ne tombons pas dans une opposition binaire et essentialiste entre hommes violents et femmes victimes de violences, ni dans des arguments naturalistes qui feraient des chromosomes et non des relations de pouvoir d'origine de cette différence. Et non des relations de pouvoir l'origine de cette différence. Si tous les hommes étaient violents, alors 7 hommes mourraient chaque jour aux mains de leur amant, compagnon ou petit ami dans les relations homosexuelles. Prenons par exemple l'année 2016 en France, qui a fait l'objet d'une étude approfondie. 138 faits qualifiés d'assassinat, homicide ou violence volontaire ayant été entraînés la mort ont été recensés. 109 victimes sont des femmes. Les victimes masculines sont au nombre de 29. Sur les 29 femmes auteurs d'homicides commis sur des hommes, 17 d'entre elles étaient victimes de violences de la part de leur partenaire, soit 60,71%, ce qui peut conduire à considérer ces meurtres comme des formes d'autodéfense. Parmi ces 138 faits, on n'en relève qu'un seul au sein d'un couple homosexuel masculin. Aucune femme n'a été tuée au sein d'une relation lesbienne. Et donc, la deuxième conclusion qui se dégage de l'examen des chiffres des féminicides est que les agressions, les abus et les meurtres de femmes dans la sphère domestique ont lieu dans le cadre des relations hétérosexuelles. Ce fait n'est jamais mentionné quand on parle de féminicide, mais c'est peut-être le plus important sur le plan politique. L'hétérosexualité est un régime sexuel nécropolitique qui place les femmes, cis ou trans, en position de victime et érotise les différences de pouvoir et la violence. L'hétérosexualité est dangereuse pour les femmes. La reconnaissance de cette relation silencieuse entre violence et hétérosexualité exige un changement de nos objectifs politiques. Alors que le mouvement LGBT se concentre depuis 30 ans sur la légalisation du mariage pour tous, un mouvement de libération somatopolitique devrait viser aujourd'hui l'abolition du mariage hétérosexuel comme institution qui légitime cette violence, ainsi que l'abolition de la police et de la prison telles que nous les connaissons. De même, la reconnaissance du fait que la plupart des abus sexuels et des violences contre les enfants ont lieu au sein de la famille hétérosexuelle devrait conduire à l'abolition de la famille comme institution de reproduction sociale, plutôt qu'à la demande de législation de l'adoption par les familles homoparentales. Nous n'avons pas besoin de nous marier. Nous n'avons pas besoin de fonder des familles patriarcales. Nous devons inventer des formes de coopération politique qui vont au-delà de la monogamie, de la filiation génétique et de la famille hétéropatriarcale. Le caractère constitutivement violent de l'hétérosexualité normative a été dénoncé depuis les années 1970 par bon nombre de féministes radicales. Mais ces critiques n'ont pu être entendues en raison de la lesbophobie qui traverse le système patriarcal et qui imprègne également le féminisme. Une lesbophobie historique, comparable uniquement à la transphobie du féminisme actuel. Essayons maintenant d'écouter les femmes guerrières de la fin du XXe siècle, qui, placées en position hétérosexuelle, beaucoup d'entre elles l'étaient, se sont affirmées comme « cimarrones », des esclaves en fuite ayant recouvré la liberté et se sont échappés vers une forme de lesbianisme politique. En 1968, T. Grace Atkinson se définit comme lesbienne et rompt avec le mouvement féministe américain « Now », dirigé par Betty Friedan, dénonçant la défense que celui-ci fait du mariage, institution qui légitimait, pour Atkinson, l'expropriation du travail sexuel féminin et la soumission des femmes au plaisir masculin. Betty Friedan, comme aujourd'hui la philosophe Sylvia Nagasinski, verra les lesbiennes comme une menace violette face aux valeurs hétérocentrées de son féminisme. Jill Johnston, la première lesbienne à sortir du placard dans les colonnes du journal Village Voice aux États-Unis, se présentait aux réunions et aux fêtes avec ses beaux cheveux longs et sa chemise à moitié ouverte, s'adressant aux filles hétérosexuelles avec une attitude joviale et irrévérencieuse qu'elle appelait « séduction comme protestation politique contre l'hétérosexualité ». C'est ainsi qu'est née l'expression « le féminisme est la théorie, le lesbianisme est la pratique ». Et les filles se sont mises à pratiquer. Quelques années plus tard, la romancière, philosophe et militante Monique Wittig définit l'hétérosexualité non comme une pratique sexuelle, mais comme un régime politique. Selon elle, l'affirmation selon laquelle certaines femmes sont naturellement hétérosexuelles est aussi fallacieuse que l'affirmation selon laquelle les hommes sont naturellement violents. Pour la poétesse et théoricienne Adrienne Rich, l'hétérosexualité n'est pas une orientation ou un choix sexuel, mais un impératif politique pour les femmes. Avant le désir, il y a la norme. Rich appelle cela l'hétéronormativité des lois non écrites. La poétesse et militante féministe Audre Lorde examine pour sa part la relation entre hétérosexualité et racisme et nous apprend à détecter les formes violentes d'érotisation des corps subalternes dans les cultures coloniales et postcoloniales hégémoniques. Si, pour Virginia Woolf, une femme avait besoin d'une chambre à elle pour écrire, pour Audre Lorde, cette chambre, si elle veut être libre et sûre, ne peut être dans la maison hétérosexuelle et encore moins conjugale. 50 ans après les premières guerrières, les femmes hétérosexuelles continuent d'être assassinées par leurs maris, leurs petits amis ou leurs ex-maris. S'il est vrai qu'il est aujourd'hui plus facile de s'affirmer comme lesbienne qu'en 1960, l'hétérosexualité récalcitrante est encore mortelle. Les activistes queer et trans, Gayle Rubin, Pat Khalifa et Kate Bornstein, suggèrent de ne pas avoir de relations hétérosexuelles, où hétérosexuelle n'indique plus différence du sexe, mais plutôt asymétrie de pouvoir. La question est plutôt, comment appeler une relation hétérosexuelle, celle dans laquelle celui qui est supposé occuper la position politique de l'homme renonce à la définition souveraine de la masculinité comme exercice de pouvoir? À quoi ressemblerait une relation supposée hétérosexuelle, mais sans homme et sans femme? Ce sont les hommes cis qui doivent maintenant initier un processus de désidentification critique à leur propre position de pouvoir dans l'hétérosexualité normative. Autrement dit, il faut dépatriarcaliser et décoloniser l'hétérosexualité. Il en va de même pour les politiques de genre que pour les politiques écologiques. Nous savons très bien ce qui se passe. Nous connaissons notre responsabilité, mais nous ne sommes pas prêts à changer. Cette résistance au changement ne manifeste non seulement chez ceux qui occupent des positions hégémoniques, mais aussi chez les corps subalternes, ceux qui souffrent le plus directement des conséquences de ce régime de pouvoir. Nous avons peur de nous reconnaître dans ce qui est abject. Mais la vie est du côté de l'abject, la mort du côté de la norme. Seule la transformation du désir peut mobiliser une transition politique. J'imagine que ce que je dis ne suscite pas un enthousiasme immédiat depuis les masses, mais il est nécessaire de se confronter collectivement aux conséquences de l'héritage nécropolitique du patriarcat. Seule la dépatriarcalisation de l'hétérosexualité permettra la redistribution des positions de pouvoir. Seule la déshétérosexualisation des relations rendra possible l'émancipation non seulement des femmes, mais aussi, et paradoxalement, des hommes. En attendant, chaque femme devrait avoir une arme. Je vais dire plutôt un livre, une généalogie, un poème, un perroquet, un cyborg, et savoir s'en servir. Il n'y a pas de temps à perdre. La révolution a déjà commencé. Mediapart.